Le texte de notre étude aujourd'hui se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Jean. Notre lecture se situe entre les versets 21 et 29. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans ce texte, il est question de deux résurrections. L'une est une résurrection spirituelle, l'autre est une résurrection corporelle. La première se situe dans le temps où Jésus parle. Il affirme en effet que l'heure est déjà venue. L'autre, la seconde, se situe dans le futur, car Jésus dit que l'heure vient. Elle n'est pas encore présente. Elle fait partie d'un événement qui se dessine à l'horizon de l'humanité. Je vous propose d'examiner dans le détail ces deux résurrections telles que Jésus les conçoit et à la lumière des autres textes de l'Écriture. Voyons d'abord cette première résurrection, la résurrection spirituelle. Si l'on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Effectivement, l'idée de mort spirituelle n'est pas étrangère aux Écritures. Elle est d'ailleurs présente dans ces déclarations du Christ que nous méditons aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'il déclare « Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Dans cette impressionnante déclaration, il fait manifestement allusion aux hommes vivants quant au corps, mais morts quant à l'esprit. La cause de cette mort, le péché. L'effet de cette mort, la séparation d'avec Dieu. Ésaïe l'a bien exprimé lorsqu'il dit au peuple pécheur « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » La mort spirituelle est une séparation d'avec Dieu, la source de vie. Il est écrit que ceux qui vivent dans le péché sont morts, quoique vivants. Jésus est venu rétablir l'union, c'est-à-dire la vie, et cela par le moyen de sa parole de vie. Cette première résurrection est conditionnelle. Il faut écouter sa parole et croire et l'accepter. L'apôtre Paul exploite à fond ce thème de la mort et de la résurrection spirituelle. Dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, il dit par exemple « Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous pouvons constater que dans ce texte de Paul, la résurrection spirituelle revêt une ampleur considérable. Non seulement le croyant ressuscite-t-il avec le Christ, mais il participe aussi et déjà, en lui, à son ascension et à son règne. En fait, cette première résurrection est le gage, la garantie et l'anticipation de la grande résurrection finale. Dans les écrits de Paul, le croyant est toujours appelé à se souvenir des deux faits solennels qu'il a exprimés lors de sa conversion. En effet, au moment du baptême, le croyant signifie d'une part sa mort, sa séparation d'avec le monde et son ancienne vie, et d'autre part, son attachement à Christ qui l'entraîne dans sa résurrection. Voyez comment l'apôtre Paul rappelle ces deux grandes phases qui déterminent la conversion totale, l'engagement solennel. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Dans une autre lettre, il dira encore, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. » Dans cette étude sur la résurrection spirituelle, il ne faut pas oublier l'instrument, la cause de cette renaissance à la vie, à savoir la parole. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. On ne peut s'empêcher d'évoquer la vision du prophète Ézéchiel, à laquelle Jésus paraît ici faire allusion. Debout au milieu d'une vallée couverte d'ossements desséchés, le prophète fait entendre la parole du Seigneur, puis invoque l'Esprit de Dieu. Au contact de la parole et du souffle de l'Esprit, les os se rassemblent les uns des autres, se couvrent de chair et reprennent vie. Ainsi, Jésus se tient ici-bas, le seul vivant au milieu de l'humanité plongée dans la mort du péché. L'heure est venue où, par sa parole, il va rendre la vie aux morts, parce qu'elle est une parole vivante, génératrice de vie, en celui qui l'entend, l'écoute et la reçoit. L'apôtre Pierre dira que la parole de Dieu est une semence incorruptible, capable de régénérer les hommes. Et Paul déclarera de son côté que la foi et la connaissance du salut en Jésus-Christ ne peuvent provenir que d'un contact avec la parole du Christ, telle qu'elle est annoncée par ses envoyés. C'est elle qui est et qui sera jusqu'à la fin l'instrument de la résurrection spirituelle des hommes. Comme il y a une résurrection spirituelle, il y aura aussi une résurrection des corps. Le langage du Christ est sans équivoque. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection des corps pourrait être considérée comme une récompense en elle-même, attribuée au seul juste. Mais il est expressément écrit, comme nous venons de le voir, que les méchants comme les bons participeront à cette expérience étonnante de la résurrection des corps. L'apôtre Paul affirme de même, « Nous avons en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » On pourrait au moins se demander si cette résurrection des justes et des injustes se fera au même moment, ou s'il y aura deux résurrections simultanées, séparées l'une de l'autre par un laps de temps indéterminé. Les textes les plus clairs dans la Bible nous inclinent à rejeter cette dernière hypothèse. En effet, Jésus fait souvent allusion au dernier jour. Et il inscrit à l'ordre de ce jour des événements définitifs, parmi lesquels la résurrection de tous les morts et le jugement des rebelles à sa parole, ressuscités eux aussi pour pouvoir comparaître devant le tribunal divin. En Jean, chapitre 6, verset 40, Jésus déclare « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui » est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà pour les justes. En Jean, chapitre 12, verset 48, Jésus déclare de même, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Voilà pour les injustes. Dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul souligne aussi ce double rôle du Seigneur. Il semble même donner priorité au fait qu'il viendra punir les rebelles. Il le décrit venant au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ce sera sans doute la seconde mort dont parle l'Apocalypse, où l'on retrouve cette notion de séparation éternelle d'avec Dieu dans la mort éternelle. Mais en ce jour-là, ajoute aussi l'apôtre Paul, il viendra aussi pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Pour conclure, nous soulignerons un autre point qui ressort de cette étude. C'est le caractère transitoire de notre passage sur la terre et le caractère définitif, irréversible, pour tous les hommes, du dernier jour annoncé par le Christ. Les Écritures parlent de la patience de Dieu qui nous accorde du sursis et insiste sur la nécessité de se préparer, de veiller et de prier, car lorsque viendra le jour du Seigneur, il sera trop tard. Chers amis, ma prière aujourd'hui est que nous ayons tous la sagesse de prendre au sérieux les commandements du Seigneur et nous y conformer dans l'attente de son retour.